Marie-France, quand on s'est retrouvés hier, ça venait à peine de tomber.
Ça venait tout juste de tomber.
Et je cherchais, parce que j'ai eu comme une espèce de un petit trou de mémoire sur le nom, mais je trouvais que la façon dont Luc Ferrandez a annoncé ça, c'était comme Nicolas Hulot.
Exactement, tu l'ancien rappelles? Ministre de la Transition écologique en France.
Il a démissionné.
Qui avait quitté le... Oui.
À la radio.
Oui, et
en direct
dans une émission, et à peu près pour les mêmes raisons, il se sentait vraiment coincé, il se sentait comme un imposteur, a dit Ferrandez, pogné dans son rôle sur les questions environnementales. Et je t'ai dit hier ce que je pensais de lui, un libre penseur qui tient vraiment à ses principes, mais à l'entendre en entrevue aujourd'hui, il y a trois questions, moi, qui me restent, qui vont au-delà de la personne et de l'ego de Luc Ferrandez, qui n'en manque pas. La première question, est-ce qu'il va être une plaie pour son ex-parti, pour Projet Montréal? Parce qu'il est assez critique, de manière assez ouverte. Est-ce qu'il va être une belle-mère? Il n'a pas caché son intention d'aller travailler dans les médias, donc il aura à se prononcer et sur la politique municipale et sur les questions environnementales, très certainement. Et en même temps, on peut dire que Valérie Plante perd son aile gauche très, très extrême avec Luc Ferrandez. Donc, peut-être qu'il risque de critiquer son ex-parti, mais en même temps, son départ va certainement rassurer un bon nombre d'électeurs qui trouvent que Projet Montréal a du bon sens, mais que la manière Luc Ferrandez était vraiment excessive. Donc, jusqu'à un certain point, je pense que ça peut rassurer un certain nombre d'électeurs parce que Valérie Plante fait quand même beaucoup pour l'environnement à Montréal, mais sa partie vraiment extrême était représentée par Ferrandez. Donc, ça peut être un bon point pour Projet Montréal. L'autre question que je me suis posée, pensant justement à Nicolas Hulot, qu'est-ce qui est le mieux pour un environnementaliste qui fait de la politique? Est-ce que c'est un parti de pouvoir avec un discours vert, comme par exemple le Parti libéral au Canada, qui va aller d'ailleurs chercher très probablement Stephen Guilbeault, donc un environnementaliste qui irait dans un parti de pouvoir.
Et dont la ministre veut déclencher une urgence climatique.
Exactement,
ici.
Exactement, oui. Donc, des préoccupations environnementales, mais dans un parti qui exerce le pouvoir. Est-ce que c'est un parti vert, un peu comme Projet Montréal, comme les Verts à l'échelle canadienne avec Elisabeth May le sont? On peut dire que Ferrandez l'a essayé parce qu'il était au pouvoir et que ça marche moyennement parce que tu es obligé au compromis. Ou alors, est-ce que c'est mieux, quand tu es un environnementaliste, d'exercer ton pouvoir à l'extérieur? Dans les médias, d'être l'espèce de chien de garde et de faire de la pédagogie, en quelque sorte, auprès d'un beaucoup plus large public que celui auquel tu t'adresses quand tu es dans un parti politique. Donc, c'est vraiment les trois hypothèses que, quand tu vas avoir du pouvoir et que t'es vert, on verra ce que fera avec ça Luc Ferrandez. Et la dernière question que je me posais, est-ce que les militants font de bons politiciens? Ça, c'est une question intéressante parce que, évidemment, les militants sont toujours très pressés. Le temps est un peu plus long en politique. Ils se fatiguent d'être toujours à contre-courant, même dans leur parti. C'était le cas de Luc Ferrandez. C'était certainement le cas de Nicolas Hulot aussi. Mais ça en prend des militants. C'est le genre de figure qui fait avancer l'histoire. C'est pas les courtisans et les comptables beiges qui font avancer l'histoire. C'est plutôt des militants. Mais en même temps, je l'ai entendu ce matin en entrevue dire, dans 10 ans, il y aura un grand besoin de leaders de style autoritaire progressiste. Oui. C'est deux mots qui vont pas ensemble. Autoritaire
et
progressiste, ça va pas ensemble. Et le leader autoritaire, qu'est-ce que tu veux? C'est un peu effarant. Ça fait penser à des brigades vertes. C'est assez inquiétant en soi. Et toute la notion de la politique et de l'utilité de la politique et de l'usage de la politique de Luc Ferrandez est là, entre le fait qu'il démissionne et le fait qu'il se voit en leader autoritaire progressiste dans 10 ans. Je pense qu'il y aura des belles entrevues à faire avec lui pour éclaircir cette question-là.
Et c'est ça qui fait la contradiction Ferrandez.
Ouais.
On lui donne raison sur un tas de points.
Oui.
D'ailleurs, Pierre-Yves
oui.
va démontrer qu'il a raison, notamment sur cette croissance infinie qui est un peu
Absolument.
Le modus ouais. operandi de nos sociétés oui. industrielles complètement folles et déréglées. On lui donne raison sur un paquet de choses. C'est dans la manière,
oui.
dans la manière, Ferrandez, qu'il s'est fait le plus d'ennemis, si on veut.
Et en même temps, auprès de son électorat, sans cesse, en 3 élections, l'électorat montait.
Aussi.
C'est une vraie contradiction oui. sur 2 pattes. Très hâte d'entendre les entrevues qui vont suivre avec lui.
Guy Rocher, 95 oui. ans, reconnu comme professeur, évidemment, de sciences sociales à l'Université de Montréal, chercheur au Centre de recherche en droit public.
Et père de la Révolution tranquille et un des derniers commissaires vivants de la commission Parent qui a mis en place notre système d'éducation.
J'y arrivais, compagnon de tous les ordres du Canada et du Québec et tout ce que tu veux. À 95 ans, est venu donc à la commission témoigner sur le projet de loi 21.
Oui.
Sur la laïcité.
Et il est d'une limpidité, 95 ans, il est vraiment très impressionnant, très, très, très lucide. Lui, il est pour le projet de loi 21. Il dit, si on n'a pas adopté le projet de loi 21, si on ne l'adopte pas, on va reconfessionnaliser progressivement l'école et les institutions publiques, ce qu'on avait défait avec la Révolution tranquille. Il dit, la société n'est pas obligée d'accepter une religion visible. C'est le problème des religions d'être visibles et il dit que la plus visible d'entre elles, c'est l'islam en ce moment. Il dit que notre société a évolué vers un système d'institutions neutres où justement on préconise l'égalité entre toutes les religions. Et il a dit en gros, et c'est vraiment ce qui m'a frappé, il inverse le fardeau de la responsabilité du respect de la diversité. Il faut respecter la diversité, dit-il. Mais le fardeau n'incombe pas aux profs et aux enfants. Aux parents et aux enfants. Il incombe aux professeurs. C'est eux qui doivent s'adapter aux singularités idéologiques et religieuses. Il a inversé littéralement la proposition d'une manière logique, calme, limpide. En fait, l'exact contraire des Bouchard et Taylor qui étaient venus témoigner la semaine auparavant. Bouchard, qui lui aussi est sociologue. C'est intéressant de voir le match des sociologues. Moi, je dis 1-0 pour Guy Rocher.
Alors, c'est pour ça que le débat est si polarisé. Vous avez des intellectuels qui sont à 180 degrés.
Exactement. Opposés, et avec le même outil d'analyse.
Oui, exactement. Ouais. La canicule de l'été dernier qui a fait 66 morts reliés à cette chaleur. Et je disais tout à l'heure, parce qu'on
c'est
en parlait,
court.
Et ça a été très court, Marie-France. Du 30 juin au 5 juillet,
oui.
On a assisté à des maxima qui ont dépassé 30 degrés.
Exactement.
Donc, canicule de 7 jours.
Oui, et on commence, c'est la directrice générale de la santé publique qui a mené une enquête épidémiologique et qui, au début, on pensait que c'était 46, c'était déjà beaucoup, 66. Essentiellement des gens pauvres, des personnes âgées et des schizophrènes. Et maintenant, on constate qu'il y a des risques évidents et directs aux périodes de canicule. Ces gens-là qui sont morts habitaient des petits logements mal ventilés, sans climatisation, qui sortaient peu ou pas, qui se sentaient stigmatisés, les schizophrènes, de l'isolement social et de la maladie chronique, qui sont d'autres éléments aggravants. Et on se rend compte en ce moment, puis on s'en était rendu compte avec la canicule de 2003 en France qui avait fait des milliers de morts, 3000 morts, s'était-on rendu compte après coup. Les événements climatiques se décline de plus en plus sur fond de classe sociale. Ta classe sociale et ton âge sont un indice de mortalité et c'est clair que ça n'appartient pas à l'individu. C'est des mesures sociales qu'il faut prendre. Donc, un filet social, la communauté, les bénévoles, la famille qui doivent se préoccuper de ces aînés qui sont seuls. Des mesures urbanistiques et on revient à Ferrandez. Dans les villes, arrêter d'avoir des îlots de chaleur. Il faut verdir, il faut obliger avoir des toits blancs. Bref, ce sont des politiques municipales qui font que les gens ne mourront pas ou moins.
Et en même temps, Marie-France, avoir les mêmes mesures d'urgence qu'on prend l'hiver en situation extrême.
Exactement.
On a des centres d'hébergement lorsqu'il y a des sinistrés pour inondations, pour le verglas, pour des grands froids. Rappelle-toi, quand il fait un facteur refroidissement de moins 35, moins 40, on dit la ville de Montréal, aujourd'hui, va mettre à la disposition notamment des gens qui vivent dans la rue ou qui, on va en tout cas s'intéresser à ceux aux plus démunis, ils vont pouvoir passer une nuit au chaud. Il va falloir faire la même chose pendant une période de temps X durant l'été, quand les températures deviennent insupportables.
Oui, parce que ça tue tout autant que le froid, et même plus que le froid. Et on ne se méfie pas de la chaleur parce qu'on est tellement un pays de froid qu'on se dit enfin, puis avec les températures qu'on vit en ce moment, enfin la canicule va arriver. Mais c'est mortel. C'est mortel pour des raisons sociales à cause de la configuration de nos villes et parce que on laisse les personnes âgées trop souvent isolées, seules. On s'en préoccupe pas. C'est des morts qui pourraient être évitables en grande partie.
Merci beaucoup, Marie-France
Bazot. À demain.
À demain.